10h, Céline Landreau et Éric Brunet.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce RTL Midi. 2h30 d'information, vous le savez, 2h30 d'opinion aussi, jusqu'à 14h30. Et l'information, la pure, la vraie, c'est tout de suite jusqu'à 13h avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Éric, bonjour à tous. Et elle a une garde à vue levée dans l'affaire Lina. Les trois personnes entendues depuis hier matin ont été libérées cette nuit sans qu'aucune poursuite ne soit engagée. 6 mois après la disparition de l'adolescente dans le Bas-Rhin, aucune piste ne semble se dégager. Gabriel Attal réunit aujourd'hui le gouvernement sur fonds de chasse aux milliards. La traque des économies passera vraisemblablement par une refonte de l'assurance chômage. On en parlait, maire, recherche, assureur, désespérément, et si possible sans voir les tarifs s'envoler. Alors que la facture des catastrophes climatiques a atteint 6,5 milliards l'an passé, les assureurs font flamber les tarifs et les collectivités, elles, ont bien du mal à suivre. Et puis quelques foulées pour se détendre dans RTL Midi, votre vie, se mettre ou se remettre au jogging. Tous les conseils pour se lancer, ce sera dans 20 minutes. À partir de 13h, un seul numéro, le 3210, pour discuter avec vous, Éric Brunet, dans les auditeurs. La parole.
Il semble que ce soit clair. Le Premier ministre va nous pondre une réforme de l'assurance chômage. Il faut économiser de l'argent. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera probablement un peu moins d'argent et un peu moins longtemps. Je veux vous entendre sur ce sujet. Ce sera à partir de 13h. Et sachez que le standard, le 3210, est déjà ouvert. Et Victor vous attend.
La météo avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Encore gris et humide.
Merci Peggy, les détails à la fin du...
RTL Midi.
Les trois gardes à vue dans l'affaire Lina ont été levés cette nuit. Il s'agissait des premières 6 mois après la disparition de l'adolescente dont on est sans nouvelles depuis le 23 septembre dernier alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. Bonjour Yannick Collant.
Bonjour.
Trois premières gardes à vue a priori donc peu concluantes.
Et oui, ces trois personnes ont été remises en liberté dans la nuit. Après plusieurs heures de garde à vue, les enquêteurs ont conclu qu'il n'y avait rien qui pouvait les incriminer. Les explications des trois personnes, semble-t-il, étaient suffisantes, puisque les gendarmes ne sont même pas allés au bout de la garde à vue.
Qu'est-ce qu'on leur reprochait exactement ?
Alors, des incohérences d'abord dans leur emploi du temps. Le jour de la disparition de Lina, le quadragénaire placé en garde à vue et interpellé hier avait été très flou en fait sur ses activités du 23 septembre. Le couple de septuagénaires, lui, avait affirmé avoir croisé Lina. Or, les enquêteurs avaient pu déterminer que c'était impossible. Ces trois personnes ont donc été relâchées. Elles se sont peut-être trompées de bonne foi.
Ça veut dire, Yannick, qu'à ce stade, il n'y a toujours aucune piste privilégiée ?
Non, c'est une porte de plus qui se referme. Les gendarmes, en fait, continuent de chercher dans toutes les directions. Il n'y a aucune piste privilégiée, donc ils réinterrogent en ce moment beaucoup de témoins. Ils continuent de perquisitionner les maisons de la semaine dernière, par exemple. Des recherches donc dans toutes les directions qui n'ont pas permis, pour l'instant, d'avancer dans ce mystère de la disparition de Lina.
Merci Yannick Collant dans le Bas-Rhin pour RTL. 2 semaines après la mort du jeune Wanis tué lors d'une collision avec une voiture de police à Aubervilliers, la justice ouvre une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires. Wanis, 18 ans, est décédé lorsque son scooter a percuté un véhicule de la BAC qui arrivait en sens inverse. Jusque-là, le parquet de Bobigny privilégie la thèse de l'accident, une thèse contestée par la famille du jeune homme qui estime, elle, que les policiers ont volontairement percuté le scooter.
Alors qu'il faut réduire le déficit de la France et que le gouvernement, lui, a les dépenses sociales dans son viseur, Gabriel Attal a réuni tout le gouvernement pour un séminaire aux allures de Conseil des ministres.
Avec à l'ordre du jour le travail, comment remodeler l'assurance chômage pour faire des économies. Et pour ça, Mathilde Piquet, l'exécutif entend montrer qu'il est sur le pont.
Oui, du travail et encore du travail. Voilà le seul mot qu'avaient à la bouche les ministres présents à Matignon ce matin pour ce séminaire à la communication très verrouillée. Les membres du gouvernement sont tous arrivés ici un peu avant 10h, tellement nombreux qu'un embouteillage a fini par se former dans la cour de Matignon. Car l'objectif est bien là, convier l'intégralité du gouvernement dans un esprit collégial. Autour de la table, pas moins de 26 ministres et secrétaires d'État avec un dossier au cœur des discussions, une réforme de l'assurance chômage, réduction de la durée d'indemnisation, durcissement des conditions d'accès, accélération de la dégressivité des allocations. Voilà les pistes évoquées en coulisses. L'objectif dans le viseur du gouvernement, faire des économies, mais aussi réduire le taux de chômage pour atteindre 5%, le plein emploi, d'ici la fin du quinquennat. Mais les syndicats sont, eux, vent debout contre cette réforme. Ils dénoncent des mesures peu efficaces et une stigmatisation des chômeurs.
Mathilde Piquet à Matignon pour RTL et on vous retrouvera, Mathilde, après le journal pour détailler les pistes gouvernementale dans cette quête d'économie et les.
Et ça serait bien qu'elle reste avec nous jusqu'à 13h parce qu'on va parler de ça dans Les Auditeurs ont la parole. J'ai entendu des choses incroyables, hein, accélération de la dégressivité de l'indemnisation, baisse des montants. Je pense que beaucoup d'auditeurs vont avoir envie de réagir à partir de 13h.
Et j'espère que Mathilde aura entendu votre appel et qu'elle sera disponible.
Si, je me suis un peu renseigné avant de le dire.
C'est bon. La France réindustrialise et compte 57 usines de plus depuis l'an dernier. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Plus de 200 nouveaux sites au total, hein, si on inclut les agrandissements avec de nouvelles lignes de production. L'industrie de défense, notamment, se porte bien. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, le gouvernement lui demande de produire plus et plus vite. Alors à Bergerac, les usines du groupe Orenco, qui fabrique le propulseur des obus tiré par le canon César, tournent à plein régime, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Reportage Philippe de Maria.
Pour propulser un obus de 155 mm à plus de 900 mètres secondes, il faut faire sauter une charge dite modulaire. Pascal Boss, responsable de production, en tient une dans ses mains.
C'est ce qui vient pousser en fait l'obus dans le canon. On va mélanger des produits, notre cellulose du Kraft notamment, pour faire ce boîtier-là, qui va être un boîtier après pyrotechnique, qui va être le contenant et qui ensuite va recevoir la poudre.
Ici, les ateliers fonctionnent sans discontinuer et vont s'agrandir.
Déjà, on va produire 500 000 charges sur l'année et on n'a jamais fait une quantité comme ça déjà sur Bergerac. Et en effet, on a dans les projets un nouvel atelier qui va venir pour nous aider à passer le million de charges modulaires d'ici 2 ans.
Le groupe Orenco va aussi relocaliser la production de poudre noire ici à Bergerac. Thierry Francou, PDG du groupe.
Les investissements lancés vont permettre de mettre en place une usine de poudre sur Bergerac. Nous sécurisons l'ensemble de nos produits au niveau de nos fournisseurs, mais également nous reprenons nos responsabilités sur les capacités de production.
200 personnes travaillaient dans l'usine de Bergerac l'an passé. Aujourd'hui, c'est 450 et de nouvelles embauches sont à venir.
Philippe de Maria, Bergerac pour RTL. Et puis à 4 mois des Jeux Olympiques de Paris, on sait désormais que c'est le Jardin des Tuileries qui accueillera la vasque et la flamme olympique, donc pendant la durée des Jeux. Un endroit accessible au public, au cœur de la capitale, entre le Louvre et la place de la Concorde qui accueillera elle plusieurs épreuves. On y revient à 12h30. La météo, Peggy Broche, pour cet après-midi, rien ne change et on a presque envie d'ajouter malheureusement.
Oui, c'est un peu comme un millefeuille, vous voyez, on fait des tranches à la verticale du nord au sud. Alors on a une tranche de pluie entre la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes, avec quand même moins de pluie et toujours de la neige des 1000 mètres. Attention au risque d'avalanche d'ailleurs sur les Alpes, qui est assez marqué. Une tranche de temps sec entre la frontière belge, la Bourgogne, en allant vers la Méditerranée, où là il y a plus de soleil du côté de la Méditerranée. Une tranche de pluie cet après-midi entre la Haute-Normandie, l'Île-de-France, l'Auvergne, le Massif central. Une tranche de temps sec, si vous suivez, entre la Basse-Normandie, le centre et les Pays de la Loire. Et une nouvelle perturbation va arriver en soirée, donc par la côte ouest, entre la Bretagne et la Vendée. Vous l'avez compris, c'est un temps perturbé, agité avec du vent jusqu'à 80 km/h sur les côtes, 60 dans les terres. Et des températures, alors qu'ils sont tout juste de saison, un peu fraîches sur l'est, avec 9 degrés à Mulhouse cet après-midi, 10 à Brest, 11 à Caen, 12 à Rennes, 13 à Paris comme à Lyon, 14 à Toulouse, 15 à Bordeaux, 16 à Perpignan, 17 à Biarritz. Et je rappelle que l'Isère est toujours en vigilance orange neige verglas.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, chaque jour l'info est au plus près de vous et aujourd'hui direction Gardanne dans le département des Bouches-du-Rhône où le centre de microélectronique de l'école des mines est en train de mettre au point une main bionique.
Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour Céline et Eric, bonjour à tous.
Vous vous êtes donc rendu dans ce laboratoire où des chercheurs tentent d'inventer une seconde peau électronique qui permette aux amputés du bras et aux personnes qui ont perdu la sensibilité eh bien de retrouver des sensations.
Absolument, ressentir à nouveau la chaleur, l'humidité, la pression, reconnecter le bras avec le cerveau, en fait, ça pourrait être une avancée technologique majeure, pas seulement pour les amputés, mais aussi pour les malades d'Alzheimer, qui perdent rapidement la sensibilité au bout de leurs membres. C'est le professeur et chercheur Sylvain Blayac qui nous emmène dans son laboratoire pour découvrir cette main du futur.
Donc présentement, ce qu'on a ici, c'est un gant qui est équipé au bout du gant de capteurs tactiles. C'est des dispositifs optiques qui vont être réinjectés sur un manchon qui sera placé sur l'avant-bras.
Comme un brassard un petit peu.
Un brassard, et qui va recréer, par vibration ou par d'autres types de sollicitations de la peau, une sensation qui va représenter le phénomène qu'on souhaite mesurer.
C'est donc un brassard sur le biceps qui va permettre de retranscrire la sensation là où il y a encore des terminaisons nerveuses.
Alors si je comprends bien Hugo, on peut ressentir la chaleur par exemple à un autre endroit du corps ou au travers d'une sorte de vibration, c'est ça ?
Oui, en fait, cette main bionique, elle est actuellement testée avec un vibreur tout simple, un vibreur de téléphone portable, parce que le froid ou la chaleur, par exemple, c'est une sensation qui serait assez simple à recréer électroniquement sur un brassard. Par contre, ce serait plus compliqué pour l'humidité ou la force du vent, mais l'être humain s'adapte très vite.
Le corps et le cerveau ont une capacité d'apprentissage et de substitution qui est assez extraordinaire. On n'est pas forcément obligé de recoder exactement la même sensation.
Pour reprendre notre exemple, la casserole est chaude, ça se met à vibrer très rapidement sur mon manchon. Ça va devenir instinctif.
Ça va s'intégrer très rapidement dans le cerveau. Je vais m'approcher, je vais sentir, je vais bouger ma main et je vais voir cette relation entre la position de ma main et la vibration qui change. Et mon cerveau va très rapidement apprendre à intégrer cette information comme étant une information d'une certaine façon quasi naturelle.
Ce projet de main bionique va entrer en phase de test pour les 3 prochaines années, à l'issue desquelles il pourrait être mis sur le marché.
Fascinant. Il y a d'autres projets, Hugo, dans ces laboratoires pour améliorer les capacités humaines ?
Oui, alors ça peut paraître un peu cyborg, mais effectivement, plusieurs innovations sont envisagées, comme créer un vibreur qui indiquerait à un électricien qu'il a une importante charge électrique à proximité, un risque d'électrocution. Et un projet aussi à destination des malvoyants avec des épaulettes vibrantes qui leur indiqueraient la proximité des murs, des marches et qui pourraient donc remplacer la fameuse canne blanche à terme. Beaucoup d'idées qui sont pour l'instant seulement à l'état de projet.
Merci beaucoup Hugo Hamelin dans les Bouches-du-Rhône donc pour RTL.
Un instant, la chasse aux économies.
C'est ça, séminaire de travail à Matignon. Le gouvernement traque, vous le disiez, les économies et veut s'attaquer à l'assurance chômage. À tout de suite.
Céline Landreau, Éric Brunet.
RTL midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Éric Brunet,
RTL Midi.
Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge, c'est celui du travail. C'est ce que nous allons poursuivre avec la réforme de l'assurance chômage parce que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances.
L'heure est à la chasse aux économies au sommet de l'État. Rigueur, le mot a été lâché hier à l'Assemblée nationale par Gabriel Attal, le Premier ministre qui réunit son gouvernement aujourd'hui à Matignon pour un séminaire consacré au travail. Pour en parler avec nous, Mathilde Piquet en direct de Matignon justement et William Galibert du service politique de RTL en studio. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Mathilde, vous avez vu les ministres arriver ce matin avec des mines un peu crispées.
Oui, des sourires forcés, des bonjours timides, un passage express par la cour de Matignon avant 3 heures de réunion autour du Premier ministre Gabriel Attal. Le ton est donné et pour cause. La communication de ce séminaire est très cadrée. Interdiction pour les ministres de parler au micro, aux caméras, avant comme après la réunion. Le but ce matin, aborder le travail à 360 degrés, explique l'entourage du Premier ministre. Comprendre, garder la main sur le sujet plutôt que de déléguer à d'autres membres du gouvernement, car le plein emploi, atteindre 5% de chômage est un objectif phare de la fin du quinquennat.
Alors William Galibert, on parle de séminaire de travail, là, des ministres, on a bien compris, mais ça ressemble surtout à un séminaire de crise.
Oui, vous savez, quand quelqu'un n'arrête pas de vous répéter qu'il faut garder son sang-froid, c'est généralement que lui-même est peut-être en train de perdre ce sang-froid. Donc là, pas de panique, c'est le message que nous a martelé Bruno Le Maire hier sur RTL, que reprennent en boucle tous les conseillers de l'exécutif, mais l'organisation même de ce séminaire prouve que oui, il y a quand même un peu panique à bord, il y a cette situation budgétaire plombée. On comprend aussi, on va y revenir en détail avec Mathilde, qu'il n'y a pas 36 pistes de travail, puisque la porte, par exemple, à des augmentations d'impôts, ne serait-ce que pour les plus riches, a déjà été fermée. Donc vous avez le cœur du problème, la dette et les à côté, aussi comment vous allez l'annoncer. Là aussi, on va en reparler. Comment vous préparez les Français à des annonces qui, par nature, vont être très, très mal accueillies.
Bon, sur la table, le gros dossier, ça reste l'assurance chômage, car Mathilde, l'exécutif est persuadé qu'il y a des milliards à gratter de ce côté-là.
Oui, alors officiellement, Matignon se dit simplement rester attentif au dossier de l'assurance chômage, puisque son financement est quand même géré par les partenaires sociaux. Malgré tout, le gouvernement pourrait aller chercher des économies sur 3 volets. Le premier, réduire la durée d'indemnisation des chômeurs. Elle est aujourd'hui 18 mois. Et bien en coulisses, on évoque une nouvelle durée maximale de 14 mois et demi. Ça fait 3 mois et demi de plus en moins à payer, une source justement d'économie. Deuxième volet, durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage. La règle en vigueur actuellement, c'est que vous devez avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 2 dernières années pour prétendre à des allocations chômage. Là, l'idée, c'est d'inciter les salariés à rester dans l'emploi plus longtemps et donc réduire le taux de chômage mécaniquement. Et puis, troisième piste, accentuer la dégressivité des allocations, parce que quand vous êtes au chômage, le revenu qui vous est versé diminue quand vous approchez de la fin de vos droits, de la période d'indemnisation. Eh bien, le gouvernement pourrait accélérer le calendrier aussi de ce côté-là.
Passionnant, hein. C'est absolument passionnant, parce que je peux vous dire que si elle met ça en œuvre, si on met ça en œuvre dans les prochaines semaines, prochains mois, il va y avoir vraiment une réponse sociale immédiate, à mon avis. Cette efficacité, elle est encore à prouver. Il va falloir, pour Gabriel Attal, annoncer, expliquer tout ça aux Français. C'est a priori ce soir que ça se fait dans un journal de 20h.
20h de TF1, mais quand vous arrivez...
C'est sûr.
Oui, ça c'est sûr. Quand vous arrivez chez le dentiste pour vous faire arracher une dent... Même si on vous offre un verre d'eau, même si on vous accueille gentiment, même avec l'anesthésie qui va bien, au bout du compte, va falloir quand même sortir les pinces et arracher la dent. Donc pour l'instant, on prépare le terrain. Il y a eu l'annonce des mauvais chiffres, il y a ce séminaire, il y a le mot rigueur qui a été prononcé. À un moment, il va donc falloir annoncer et confirmer les mauvaises nouvelles. Mais le plus probable, c'est que ce soir, Gabriel Attal, aux 20h de TF1, ne rentre pas dans le détail, qu'il trace plutôt des grandes orientations, qu'il dessine un calendrier de discussions, de négociations qui pourraient s'allonger jusqu'à l'été. Parce que, et vous en disiez un mot, Eric, il faut aussi penser aux partenaires sociaux, aux syndicats qui sont déjà globalement fâchés, qu'il ne faut pas encore braquer davantage. Et on ne peut pas se permettre de leur apprendre, comme le reste des Français devant leur télé, les mauvaises nouvelles qui vont tomber. Donc probablement qu'il y aura encore de la pédagogie, comme le dit le gouvernement, de l'explication aux Français. Voilà pourquoi on en est là et ce qu'il va sûrement falloir faire. Mais le plus probable, c'est un calendrier qui va s'allonger et qui va s'étaler jusqu'à l'été.
Ces mesures donc, dont on n'aura pas tous les contours dès ce soir, hein, à vous entendre, William.
Ou seulement des contours, dirons-nous.
Elles ne résoudront de toute façon pas tous les problèmes, loin de là, Mathilde.
Non, déjà la première limite, c'est l'efficacité économique de telles mesures. En fait, plusieurs spécialistes émettent des doutes sur les économies réellement permises par le changement des règles de l'assurance chômage. Un exemple pour vous rendre compte, sur la réduction de la durée d'indemnisation, en fait, ce n'est qu'une petite partie des chômeurs qui va jusqu'au bout et utilise la totalité de leurs droits. C'est donc peu efficace face aux milliards d'économies que le gouvernement doit trouver pour combler le déficit. Et puis la deuxième limite, c'est que le gouvernement, il a déjà réformer l'assurance chômage en 2019, en 2023. De nouvelles règles ont été instaurées, ça s'appelle la contracyclicité. En clair, c'est durcir les règles quand le chômage diminue et puis les assouplir quand il repart à la hausse, à plus de 9%. Alors on n'y est pas encore, mais en ce moment, le chômage augmente légèrement et ça devrait se poursuivre dans les prochains mois. Une réforme avec des règles plus dures irait donc contre l'esprit de la dernière réforme, contre ce principe.
Merci beaucoup Mathilde Piquet, en direct de Matignon. À propos de Matignon, cette dernière minute, Matignon nous apprend que le Premier ministre Gabriel Attal recevra cet après-midi le proviseur du lycée Ravel. Vous savez, c'est ce proviseur qui a choisi de démissionner après avoir été menacé de mort suite à un incident lié au port du voile dans son établissement. On marque une pause, Eric ?
Dans un instant, RTL Midi, votre vie, et on va parler de l'approche de l'été, et de bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, c'est un peu de sport, et se remettre au jogging. On s'y remet au jogging, oui, mais comment ? Quoi ? Quelle chaussure choisir ? Est-ce que c'est pas sans danger ? Voilà les questions qu'on se posera. Voilà, pour parfaire votre corps, mesdames, messieurs, pour l'été qui arrive.
RTL Midi, Céline Landreau et Eric. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien, les amis, et aujourd'hui...
À quoi pensent les joggeurs du dimanche, quand ta petite foulée, ils avancent.
À l'approche de l'été, c'est peut-être le moment de prendre de bonnes résolutions pour sculpter votre silhouette, pourquoi pas en se mettant au jogging. Bonjour Alexia Cornu.
Bonjour.
Vous êtes coach sportif, co-auteur de Cuisine avec Bérangère Bourges et avec Alexia, c'est aux éditions Larousse. D'abord, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de tâcher de convaincre les récalcitrants, ceux qui n'ont pas le courage, qui n'ont jamais aimé courir. Qu'est-ce que ça peut leur apporter de s'y mettre ?
Ça tombe bien, c'est ceux que je préfère. C'est vraiment le challenge de les convaincre. Eh bien déjà, le fait d'être sur une activité qui est dehors, en extérieur, qui va permettre de pouvoir bien s'oxygéner, de pouvoir prendre une bonne dose de vitamine D, et puis de pouvoir se changer les idées aussi, parce que quand on court, on sécrète plein d'hormones qui, du coup, permettent de se sentir plus en forme et de meilleure humeur.
On peut débuter à n'importe quel âge, la course à pied.
Oui, bien sûr, c'est vraiment une activité qu'on peut débuter à tout âge. Par contre, ce qui va être important, ça va être de la débuter avec progression. Le risque, en fait, c'est de vouloir s'y mettre trop fort, trop vite. Et c'est là, en fait, où on risque de se blesser, d'avoir une surcharge par rapport aux articulations. Donc, ce que je recommande au début, hein, si on s'y met, c'est vraiment d'alterner de la course à pied, des petites foulées avec de la marche.
Et sur quelle durée, si par exemple, je sais pas, j'ai 65 ans, j'ai jamais couru de ma vie, je décide de m'y mettre, c'est quoi? C'est des séances de 10 minutes pour commencer, 20 minutes?
Oui, l'idéal, c'est de prendre, par exemple, si on a 10 minutes, de se dire, bah voilà, je vais marcher pendant 2 minutes, trottiner pendant 1 minute. Si on a 20, on applique en fait exactement un petit peu la même méthode. Et vraiment, l'alternance, le fractionner entre la marche, la course à pied, en fonction du temps qu'on a. Et puis, de garder aussi vraiment une attention à nos articulations, d'être à l'écoute des signaux de notre corps. Si on sent que, par exemple, ça tire, eh bien, d'aller plus sur la marche. Et puis, quand tout va bien, que tous les signaux sont au vert, ben là, du coup, de continuer à faire du travail en petite foulée.
Une fois qu'on a les chaussures, plus d'excuses, à quel rythme est-ce qu'on doit courir? Pour commencer, bien sûr.
Alors, pour commencer, la progression, ça va vraiment être d'alterner donc de la marche plutôt rapide avec du footing plutôt lent. Ensuite, d'accélérer un petit peu le footing petit à petit pour pouvoir progresser. Il faut s'écouter. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est vraiment de pas hésiter à travailler l'appui au sol quand on reprend la course à pied. Des fois, en fait, on a le pied qui tape beaucoup et une qualité d'appui qui va faire qu'on peut avoir des douleurs au niveau des genoux, au niveau du bassin, au niveau du dos. Et donc, de se dire, à partir du moment où on sent que quand on trottine, peu importe l'allure à laquelle on trottine, on a une foulée qui est légère, efficace, on ne s'écrase pas sur l'appui, eh bien là, on peut continuer, du coup, de garder cette intensité-là. Et à l'inverse, quand on sent qu'on commence à s'affaisser, à taper du pied davantage, qu'on a moins de contrôle de la légèreté de notre foulée, eh bien plutôt repasser sur de la marche active.
La chaussure, justement, c'est pas la même chaussure qu'on utilise pour jouer au tennis, hein?
Alors ça va vraiment dépendre des personnes, hein. Honnêtement, chaque personne a un pied différent. Il y a des personnes qui, du coup, vont utiliser certaines marques de running plutôt que d'autres. Là encore, le mieux, c'est vraiment d'aller essayer différentes chaussures et de prendre celles avec lesquelles on se sent le mieux pour courir, puisque ça va varier d'une personne à l'autre.
Il faut pas trop courir sur le bitume, non? Qu'est-ce que vous courez, vous, Céline?
J'ai couru, je suis arrêtée il y a quelques mois.
Ah oui.
Mais je vais reprendre. Oui.
Et moi, je fais toujours attention à ne pas courir sur du goudron, sur le bitume.
Bah, il faut essayer de trouver des surfaces un peu souples. Pour là encore, comme le disait Alexia Cornu, faire attention à protéger ses articulations. Merci beaucoup, en tout cas, pardon pour la liaison difficile sur les dernières secondes. C'était RTL Midi, votre vie. On va marquer une pause et puis ce sera le retour de l'info.
Oui, ce sera le journal de midi et demi sur RTL. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous. Si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi, vous devez savoir qu'il est très exactement 12h30.
RTL Midi. Le 12h30. Céline Landreau, Rachel Sadodine.
Et à 12h30, c'est donc votre grande édition de la mi-journée avec vous, Rachel Sadodine. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour Eric, bonjour à tous.
À la une ce midi, un couple de boulangers du Tarn-et-Garonne disparu au Portugal. Leur fille est sans nouvelles depuis plus de 10 jours.
Et selon elle, l'enquête n'avance plus. Témoignage dès le début de ce journal. Après la forêt amazonienne, Emmanuel Macron va parler gros sous, négocier des contrats au Brésil aujourd'hui. La famine menace dans la bande de Gaza et l'espoir d'un cessez-le-feu s'éloigne.
6,5 milliards d'euros, c'est la facture des catastrophes climatiques selon France Assureur l'an dernier. Des assureurs dans le viseur des maires qui voient les tarifs s'envoler. Certaines communes se tournent donc vers des assureurs étrangers.
Et puis, on le sait désormais, la flamme olympique brillera dans le jardin des Tuileries à Paris pendant les Jeux. Jardin des Tuileries préféré à la Tour Eiffel. On vous explique pourquoi en fin de journal.
Votre rendez-vous culture, LVT Midi, juste avant 13h. Aujourd'hui, à la table de Top Chef, puisqu'Isabelle Morini-Bosque a rencontré l'intégralité du jury.
Vous voulez passer à la météo?
On va parler des auditeurs d'abord.
Non, c'est très important parce que on est en pleine chasse aux économies. Là, on est en train de se dire du côté du gouvernement qu'on va toucher aux conditions d'accès à l'indemnisation chômage. Alors, durée des conditions d'accès, accélération de la dégressivité de cette indemnisation, durée d'indemnisation. Bref, tout ça, ça va sans doute vous faire réagir. Vous êtes chômeur, vous vous sentez par exemple stigmatisé par ces mesures, eh bien appelez-moi au 3210, ou au contraire, vous avez envie de dire qu'il y a vraiment beaucoup d'économies à faire sur ce sujet-là, vous appelez également au 3210. J'ai été un peu long, excusez-moi, mais en ce moment il y a un séminaire gouvernemental, nous en saurons plus ce soir, mais j'aimerais entendre vos réactions sur ce sujet.
Et puis un sujet tout aussi important, la météo, ce sera en fin de journal, mais déjà un indice, Peggy Broche.
Avec un temps encore souvent gris et des averses.
Merci beaucoup Peggy.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Véronique et Laurent Blond, ce couple de boulangers installés à Beaumont-de-Lomagne, étaient en vacances sur l'île de Madère lorsqu'ils ont disparu. Et c'était le 16 mars dernier, Arthur Pereira.
Oui, au milieu de la matinée, le couple de sexagénaires part en balade dans le village de São Vicente.
Avec un petit sac à dos, deux petites bouteilles d'eau, un tout petit peu d'argent liquide, mais pas grand-chose.
Pauline, leur fille aînée, restait en France.
Donc, c'était pas vraiment prévu qu'ils aillent loin ou qu'ils partent longtemps.
Pourtant, à la nuit tombée, Véronique et Laurent n'ont toujours pas donné signe de vie.
Les forces de l'ordre locales et l'ambassade de France, elles se sont mis à leur recherche. Des drones qu'on recherchait sur la partie montagneuse. Des hommes en mer aussi qui sont allés chercher sur la côte pour voir s'il y avait quelque chose qui pouvait les alerter.
Mais après 10 jours de recherche, l'aîné de la fratrie n'a aucune nouvelle de ses deux parents.
Je me sens perdue. Le manque de redescente d'informations vers nous me laisse un peu perplexe. Ma sœur qui était sur place, elle se sent encore plus démunie parce qu'elle a eu l'impression aussi parfois qu'elle était responsable, même si il n'y a pas de responsable dans ces cas-là.
Pauline, elle vient tout juste d'être maman d'une petite fille et avant de s'envoler pour Madère, ses parents étaient venus la voir.
Ce sera peut-être la seule fois, peut-être la chose qui me rend le plus émotive.
La famille réclame plus de transparence de la part des autorités pour au moins avancer.
Merci Arthur. Arthur Pereira et le procureur de la République de Montauban précisent que l'enquête et les recherches se poursuivent en lien étroit et régulier avec les enquêteurs portugais. Le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel de Paris menacé de mort sur Internet après une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile le mois dernier sera reçu cet après-midi par Gabriel Attal. Le fonctionnaire affirme avoir quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. Le rectorat évoque, lui, un départ anticipé pour des raisons de convenance personnelle. Dans l'enquête sur la disparition de Lina, les trois personnes placées en garde à vue hier ont été relâchées. Aucune charge n'a été retenue contre cet homme et ce couple. Lina, 15 ans, n'a plus été vue depuis maintenant 6 mois alors qu'elle quittait son village du Bas-Rhin en direction de la gare.
RTL, il est 12h34. Après la forêt amazonienne, place au business pour Emmanuel Macron au Brésil.
Le chef de l'État est attendu cet après-midi à Rio et Sao Paulo au deuxième jour de sa visite d'État que vous suivez pour RTL. Thomas Després, bonjour.
Bonjour.
Objectif pour Emmanuel Macron, rentrer à Paris, les poches pleines de nouveaux contrats pour les entreprises françaises.
Exactement, voilà pourquoi il a embarqué dans son avion la fine fleur de l'industrie tricolore, le patron d'Airbus, ça c'est pour les avions, celui de Naval Group qui fabrique des sous-marins ou encore celui de Carrefour, premier employeur privé ici au Brésil avec plus de 150 000 salariés. La France qui est déjà bien implantée ici, un quatrième investisseur du pays avec quelques 1000 entreprises. Oui mais voilà, Emmanuel Macron aimerait bien que la réciproque soit un peu plus vraie. Jusqu'à présent, les Brésiliens, eux, n'investissent pas beaucoup en France. Le Brésil n'est pas à la hauteur, assume carrément un conseiller du président. Voilà pourquoi Emmanuel Macron va prendre lui-même son bâton de pèlerin cet après-midi, jouer les VRP. Ça tombe bien, il adore ça. Avant de s'offrir ce soir un autre de ces moments dont il raffole à l'étranger, un échange avec des jeunes ici venus des quartiers défavorisés. Le tout en présence du plus français des Brésiliens, l'ex-footballeur. Aïe.
Thomas Desprez, envoyé spécial de RTL au Brésil. Le président en déplacement et pendant ce temps, son premier ministre cherche à combler le déficit. Quasiment tout le gouvernement réunit ce matin autour de Gabriel Attal pour un séminaire sur le travail et les dépenses sociales. Ce soir, le chef du gouvernement sera l'invité du 20h de TF1.
De nouveaux bombardements sur la bande de Gaza, malgré les pressions internationales pour un cessez-le-feu.
Les négociations en vue d'une trêve à Gaza et de la libération d'otages stagnent. Et dans la bande de Gaza, la famille est devenue une réalité pour la quasi-totalité des 2 400 000 Gazaouis. James Elder est porte-parole de l'UNICEF. Il rentre tout juste du territoire palestinien.
En 20 ans de carrière à l'ONU, je n'ai jamais vu un tel niveau de destruction. Où que je regarde, il n'y a que du chaos et des débris. C'est la désolation totale. Normalement, on doit avoir un WC pour 20 personnes. À Rafah, c'est un pour 850 personnes. Les gens devraient avoir 15 litres d'eau minimum par personne par jour. Aujourd'hui, ils ont moins d'un litre par jour. Une maman m'a dit que son fils de 12 ans fait toujours le même rêve. Il rêve qu'il mange un bout de concombre. Voilà à quoi rêvent les enfants au nord de Gaza. L'UNICEF a parlé avec des adolescents. Ils étaient tellement désespérés qu'ils ont dit qu'ils espéraient mourir pour que le cauchemar prenne fin.
Témoignage au micro RTL de Jean Le Chemier.
RTL Midi.
L'emplacement de la flamme olympique a été dévoilé ce matin.
Fin du suspense à 120 jours du début des Jeux à Paris. Et c'est finalement le jardin des Tuileries qui accueillera la vasque abritant elle-même la flamme. Exit la Tour Eiffel et le Louvre. Baptiste Durieux, le comité olympique a choisi un jardin accessible au public en plein cœur de la capitale.
Oui, la vasque sera précisément installée au niveau du grand bassin rond, à 500 mètres à peine de la pyramide du Louvre, tout au bout du jardin des Tuileries, quand on arrive par la place de la Concorde. C'est une zone qui peut être sécurisée de manière efficace. Elle est centrale, elle est spacieuse, accessible et optimale pour la gestion des flux, contrairement à la cour carrée du Louvre ou à la tour Eiffel, évoquée auparavant pour accueillir la flamme. Il y aura des forces de l'ordre 24 heures sur 24 pour surveiller cette vasque. Autre point fort, la localisation, hein, au milieu de l'un des jardins les plus emblématique de la capitale en bordure de Seine et du site olympique Place de la Concorde, avec un avantage, la visibilité grâce notamment à des passages sur le côté du jardin qui sont surélevés et qui permettront au plus grand nombre d'observer la flamme. Une inconnue, pour l'instant on ne sait pas si la vasque sera allumée aux Tuileries par le dernier porteur de flamme ou si une vasque temporaire sera allumée ailleurs au moment de la cérémonie d'ouverture et déplacée ensuite.
Les précisions de Baptiste Durieux du service des sports de RTL. En football, victoire poussive pour les Bleus en match amical face au Chili hier soir à Marseille, score final 3-2. Et on l'apprend ce matin, les Parisiens seront privés de déplacement à Marseille pour le Classico de dimanche. Même chose pour les supporters nantais à Nice.
Merci beaucoup Rachel Sadodine. La météo, Peggy, pour cet après-midi, donc avec des strates.
Oui, on va dire ça exactement. Avec
strates.
Mais oui, on a une tranche de pluie, une tranche de temps sec, une tranche de pluie, une tranche de temps sec. En fait, c'est une succession de perturbations.
On appelait ça les giboulées.
Alors, c'est pas vraiment des giboulées. Demain, on parlera de giboulées, oui, parce que là, on aura de fréquentes averses avec du grésil.
Demain, vous ne viendrez pas. Si c'est pour nous parler de giboulées, vous restez chez vous.
Bon, alors, en tout cas, pour cet après-midi, on a encore des averses. Alors, même si elles seront plus éparses sur le flanc est du pays, avec de la neige en montagne aux alentours de 1000 mètres, attention au risque d'avalanche sur les Alpes du Sud qui est bien marqué. Et puis, on a cette perturbation qui était sur l'ouest ce matin, qui se décale vers l'est. On va la retrouver cet après-midi entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, en allant vers le Massif central. Ailleurs, on a des zones où le temps est plus sec, avec de timides éclaircies. Elles sont plus marquées sur la Méditerranée. Et une nouvelle perturbation va arriver en soirée par l'ouest. Et on a beaucoup de vent sur les côtes et du vent également dans les terres jusqu'à 60 km/h. Côté température, 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 13 à 17 dans le sud. Et je rappelle que l'Isère est toujours en vigilance orange, neige verglas.
Merci Peggy. Dans 20 minutes, c'est à vous, chers auditeurs, de prendre la parole. Le 32-10 vous attend déjà, Eric.
Oui, un gros sujet. Hein. Le gouvernement est en train de réfléchir à serrer la vis aux chômeurs. Durée d'indemnisation, conditions d'accès à l'indemnisation, accélération de la dégressivité. Alors, vous êtes chômeur, vous vous sentez stigmatisé par ces mesures qui vont être prises rapidement. Vous avez envie de dire, nous ne sommes pas tous des profiteurs. Ou au contraire, vous pensez qu'il y a beaucoup d'économies à faire. Appelez-nous au 32-10. Le standard est ouvert.
Avant ça, dans un instant, on continue à parler gros sous et collectivités territoriales. Elles ont de plus en plus de mal à s'assurer. Les factures s'envolent. Le maire de Dax nous raconte son expérience dans un instant.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Avec Éric Brunet et Céline Landreau.
Tiens, Peggy Broche, vous qui faites la météo tous les jours, est-ce que vous savez ce qu'ont coûté aux assureurs les catastrophes climatiques l'année dernière?
Non, mais je pense que c'est une somme conséquente.
Dingue, 6,5 milliards d'euros, à tel point que parfois ils se disent, est-ce qu'on va réussir à rembourser?
Des professionnels qui s'inquiètent effectivement, Eric, du changement d'échelle et de l'accélération aussi de ces événements dévastateurs et qui sont donc de plus en plus récalcitrants au moment d'assurer certaines collectivités. Bonjour Julien Dubois.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Dax, président du Grand Dax dans les Landes. Et vous avez d'ailleurs alerté l'exécutif sur ce problème que vous et vos collègues rencontrez aujourd'hui au moment de renouveler vos contrats d'assurance. C'est un vrai parcours du combattant.
Oui, j'ai alerté effectivement le ministre de l'Économie sur un sujet que, hélas, connaissent presque toutes les collectivités en France. C'est pas l'augmentation, mais c'est l'explosion des coûts des assurances. Pour ne parler que de la ville de Dax, c'est une augmentation de 229 000 euros, 150%. Pour l'agglomération du Grand Dax, 100 000 euros, avec en plus des garanties qui baissent, des franchises qui augmentent, et même parfois pour certains sujets, pour certains bâtiments, pour certains secteurs d'activité, l'impossibilité de s'assurer parce qu'on n'a même pas de réponse de la part des compagnies d'assurance. Donc une situation qui devient vraiment handicapante pour le fonctionnement des collectivités, alors qu'on avait déjà eu à faire face au coût du Covid, au coût de l'explosion aussi des prix de l'énergie, donc des budgets de plus en plus compliqués à équilibrer. Oui.
Alors quand on prend votre exemple, une ville très belle, Dax, que j'adore, et pour autant une ville moyenne, est-ce que vous avez de taille, est-ce que vous avez réussi à trouver un assureur, et si oui, est-ce que vous avez donc eu des conditions beaucoup plus élevées? Vous venez de donner un exemple là, mais alors les franchises, ça va représenter combien au total?
Ben, si on met tout bout à bout, c'est-à-dire les augmentations dont je parlais, plus des provisions qu'on doit faire, parce que par exemple, sur les déchetteries, sur le chenil intercommunal, on trouve même plus de compagnies qui acceptent de nous suivre, donc on doit s'auto-assurer. Donc tout ça mis bout à bout, on sera effectivement sur des augmentations de l'ordre de 200-250% sur le même poste budgétaire et pour encore une fois avoir des garanties qui sont moindres sur des responsabilités civiles. On a des franchises qui passent de 500 à 5000 euros, donc l'obligation de s'auto-assurer. Et des coûts induits, puisqu'on est même obligé de payer des AMO, des assistants à maîtrise d'ouvrage, qui vont aller faire du sourcing, chercher les compagnies d'assurance pour qu'elles veuillent bien répondre aux appels d'offres que l'on lance, puisque bien évidemment on est dans des procédures de commande publique où on a des seuils et on est obligé de respecter certaines règles. Donc en plus de l'aspect financier, il y a cette difficulté de ne pas être garanti sur certains sujets.
Est-ce que vous avez envisagé, vous, de vous tourner vers des assureurs étrangers? On sait que c'est le cas de certains de vos confrères. La ville de Dinan, par exemple, en Bretagne, a fini par trouver des assureurs américains et japonais.
Ouais, on n'en est pas arrivé là parce que y a toujours aussi une méfiance, en tout cas une vigilance à avoir sur les compagnies qui nous assurent, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir cotisé et de ne pas être
indemnisé
ou être pris en charge lorsque le sinistre arrive. Nous, on a trouvé des solutions qui sont de payer ces augmentations, voire de s'auto-assurer partiellement sur certains sujets, ce qui effectivement nous a évité d'aller vers ces compagnies étrangères dont parfois on peut craindre la pérennité dans le temps et donc la capacité après à assumer lorsque les sinistres arrivent.
Alors ces assurances, quand on est maire d'une ville, elles assurent quoi? Vous vous protégez contre quels risques?
Elles assurent tout d'abord les bâtiments, bien évidemment. Les collectivités sont propriétaires de beaucoup de bâtiments pour assumer toutes les compétences qui sont les leurs et tous les services publics qu'on doit à nos concitoyens. Assurer aussi en termes de responsabilité civile pour les actions de tous nos agents sur le terrain, sur l'entretien de la voirie, des espaces verts. Et bien évidemment aussi lorsque ils sont en charge de l'accompagnement des plus jeunes ou des plus âgés. Tout ce qui fait la vie d'une collectivité et tout ce qui couvre les actions qu'elle mène auprès de la population. Donc les sujets sont très variés, très larges.
Question peut-être naïve, mais est-ce que vous pourriez faire le choix de ne pas vous assurer, en tout cas de ne pas tout assurer, les bâtiments par exemple? Est-ce que vous pourriez décider de ne pas les assurer, oui, et de payer s'il se casse, est-ce que c'est légal ?
Après tout, vous payez plusieurs centaines de milliers d'euros d'assurance, vous pourriez dire, finalement, je les garde pour réparer s'il y a des problèmes de toiture, par exemple.
Ouais, c'est tout à fait une réflexion que nous menons. Alors toutefois, il y a d'abord des sujets sur lesquels on est obligé de s'assurer, notamment tous les sujets de responsabilité civile. Il y a comme pour les particuliers, comme pour les entreprises, des obligations d'assurance. Et puis pour le reste, quand vous avez un équipement qui a coûté 20 millions d'euros, et que vous avez un sinistre majeur, type incendie ou autre, qui se produit sur ce bâtiment et que vous avez provisionné uniquement sur 2 ans, ben vous voyez bien que la collectivité
aurait
une impossibilité d'assumer la reconstruction éventuelle suite à un tel sinistre. Donc il y a bien évidemment une impossibilité de le faire quand on est sur des gros montants, des gros investissements, et que on a juste commencé à avoir cette démarche, puisque la contrepartie de ne pas s'assurer, c'est de provisionner des sommes qui permettront d'assumer les dégâts d'éventuels sinistres. Et là, sur des investissements aussi lourds, il faudrait le faire sur de très longues années.
Merci, c'est passionnant. Au fond, les élus, les maires d'agglomération ne sont pas sortis des ronces, parce que c'est un vrai sujet. Il va falloir expliquer à leurs administrés que les primes d'assurance vont doubler. Donc, qu'est-ce qu'on fait localement? Il faut lever plus d'impôts, de taxes locales.
C'est ce que vous avez fait, Julien Dubois. Ça s'est traduit déjà par une augmentation des impôts locaux?
Non, nous, on s'était engagé en plus sur la campagne des élections municipales à ne pas augmenter les taux de fiscalité locale. Donc c'est ce qu'on s'attache à faire en cohérence avec nos promesses. Mais le risque, c'est effectivement que ce soit certaines missions, certains services qui ne puissent plus être apportés à la population parce que il faut payer les assurances. Nous, on a réussi avec un plan de gestion qu'on a mis en place depuis le début du mandat, à avoir des réserves suffisantes pour ne pas avoir à mener ce type d'action. Mais c'est là qu'il y a une nécessité de regarder ça au niveau national on ait des fonds de concours globaux qui puissent à la limite prendre le relais.
Merci Julien Dubois, maire de Dax, président du Grand Dax, d'avoir alerté vos collègues élus sur ce sujet majeur. Dans un instant, la saison 15 de Top Chef, la saison 15 avec Isabelle Morini-Bosque.
Céline Landreau, Éric Brunet.
RTL midi jusqu'à 13h.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi et aujourd'hui une table d'excellence. Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour.
Bonjour Isabelle, vous venez nous parler de la saison 15 de Top Chef sur M6 et chanceuse que vous êtes, vous avez rencontré tous les membres du jury multi-étoilé, jury 15 étoiles qui rassemble encore de nombreux téléspectateurs.
Ah ben ça on peut le dire, cette saison a débuté sous une belle étoile, pour 6 chefs étoilés c'est mieux. Depuis le démarrage le 13 mars, Top Chef devance en effet TF1, de surcroît largement en tête sur les publics jeunes et féminins. C'est logique, hein, moi qui ne m'intéresse pas à la cuisine, j'avoue que je suis ça comme un polar. Avec des profils de candidats très variés, il y a Jorik le timide, Charlie Foldet-Chebès, Brian ingénieur en biochimie forcément explosif, Arnaud le belge, il avait 4 ans au démarrage du programme, ou tiens Pierre, aussi rugueux que sa râpe à fromage, écoutez son premier contact avec Hélène Darroze et Glenn Vielle, les autres suivent de loin.
Je suis un petit gars de la campagne, j'aime pas les citadins.
Ça s'est dit, hein.
J'aime pas les citadins. J'ai mon propre restaurant, mais mon restaurant, il est mobile.
Ok, t'as un food truck.
Je suis pas américain, donc j'ai un restaurant mobile.
Ok.
Ah, ça commence bien.
Et ça poursuivra de la même façon. Cette année, on le redit pour les absents, on n'a plus 4 chefs, 4 brigades, mais 2 brigades. La grise, celle des hommes, Paul Perret, Glenn Vielle, Philippe Etchebest. La orange, celle des femmes, Hélène Darroze, Stéphanie Lekelec, Dominique Crène, seule femme triplement étoilée aux États-Unis. Ils ont 15 étoiles à eux tous, 15 pour 15 saisons. Et tous ont conscience que Top Chef, c'est désormais un label.
C'est une marque Top Chef aujourd'hui. C'est vrai qu'après 15 ans de diffusion, Top Chef est toujours là, avec un succès d'audience avéré. Voilà, et c'est étonnant, c'est rare même.
Il perce quand même aussi, hein.
27 candidats étoilés.
Ah, 27, ouais. 47 27. Au total, je crois, un truc comme ça.
Puis des chefs qui viennent du monde entier. Souvent, 3 étoiles quand même. Donc, c'est qualitatif et rythmé, comme le disait Philippe, avec beaucoup d'épreuves.
Il y a une vraie reconnaissance populaire, mais aussi dans la profession. On a les deux. Et ça, c'est très difficile à avoir.
D'apprécier par la profession, ça a pris un petit peu de temps, mais l'émission a raison de persister parce que les chefs, là, viennent tous réaliser une épreuve. Donc, c'est significatif, ça.
C'est tout à fait vrai. Pour la cuisine interne, ils ont hésité et fait mijoter avant de rempiler.
C'était une évidence. Avec la mécanique de cette 15e saison, franchement, il ne fallait pas rater ça.
Pour ma part, quand tu sais que tu as un Glenville et un Paul Perret à tes côtés pendant plusieurs semaines, franchement, ça demande un petit moment de réflexion quand même avant de rempiler.
Pareil que Philippe.
Et là, on a mis quelque part les garçons en face des filles. Ça a créé une espèce d'émulation.
C'était bon enfant et toujours avec beaucoup de bienveillance. Top Chef, c'est une parenthèse en fait. On se retrouve, on s'amuse beaucoup, on aime aller bouffer ensemble. C'est notre récréation.
On a la chance de très bien s'entendre tous. Et pour moi, qui viens spécialement en France, c'est typiquement la parenthèse.
Il y a un petit reproche qu'on peut quand même avoir sur cette émission, c'est tous les kilos qu'on prend.
C'est
les kilos qu'on prend ?
Pas moi.
Oh, t'as pris un petit peu quand même.
Non, regarde, moi ça va.
Vous parliez cuisine interne, Isabelle, il paraît que les garçons étaient plus dissipés que les filles.
Bah déjà, Stéphanie Lecalec, gagnante de la saison 2, voulait boucler la boucle Top Chef, c'était donc du sérieux pour elle. Pour le reste, bah on va relayer la question. Alors les filles dissipées, les garçons ?
Oui, définitivement. Nous, on a été sérieuses, bienveillantes, joyeuses. Bon, et un peu compétitrices quand même.
Bon, bah, on les aime comme ça, voilà.
On était une bande de 6 joyeux lurons. Franchement, on s'est beaucoup, beaucoup amusé. Colonie de vacances sur les fins de tournage.
Ça m'a fait plaisir quand même qu'on soit 3 nanas, là.
On a ajouté un tout petit peu de tabasco à la mayonnaise.
Et faire un partage d'expérience, surtout avec les candidats. Des candidats géniaux, un vrai esprit d'équipe. J'ai retrouvé dans Top Chef l'esprit qu'on a dans nos maisons, dans nos brigades. Des jeunes soudés entre eux, avec l'envie du dépassement de soi. Et vraiment beaucoup de bienveillance entre eux. Et moi j'aime bien quand il y a de la compétition, mais qu'on est en toute bienveillance. Et c'est ça qui m'a plu cette année dans Top Chef.
C'est tout à fait vrai. Preuve que la gentillesse se passe de méchanceté à l'antenne. Le niveau de difficulté étant exceptionnel, le jury n'en rajoute pas côté stress des candidats. Alors c'est pas évident parce que les coachs ont seulement le droit de suggérer, ni d'aider, ni de diriger.
Qui a le plus d'étoiles d'ailleurs, la brigade féminine ou la brigade masculine ?
Les femmes, 8 contre 7. Mais même eux s'y perdent dans le décompte, hein, moi aussi.
Eh bien 7, 3, 3, 1. Moi je baisse le niveau, moi. Je plombe tout le monde. J'ai 2 étoiles, mais dans 2 établissements, donc ça compte pas. Bah. Non, ça compte pas.
Alors, un chef 3 étoiles, c'est pas forcément un chef qui a 3 fois 1 étoile. Un chef 3 étoiles, c'est un chef qui a 1 fois 3 étoiles. On peut avoir 2 fois 3 étoiles, c'est un chef 3 étoiles. On peut avoir 15 étoiles, on est toujours un chef 3 étoiles si on a 3 étoiles. Au niveau du public, d'ailleurs, il y a tout un tas de confusion là-dessus, entre les étoiles de préfecture par rapport à un hôtel, etc. Un jour, il faudra faire une émission qui essaie de réorganiser un petit peu tout ça.
Tiens, on va remettre de l'ordre dans tout ça.
L'étoile, c'est l'étoile Michelin, hein,
voilà sûr, la vraie, oui. La seule. Si on les ajoute, Hélène Darroze, elle doit en avoir 25 hein, ouais. au total. Et Pierre Gagnère, en deuxième partie de soirée, fait sa propre brigade.
Ah.
Avec les perdants, voilà.
Merci beaucoup.
Merci Isabelle.
C'est un bon cru.
Un bon cru. 15e saison de Top Chef sur M6. Merci Isabelle Morini-Bosque. Les amis, vous avez compris que le gouvernement a pris une décision, serrer la vis aux chômeurs. On en parle dans un instant. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent non, nous ne sommes pas, nous, des profiteurs? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui disent il y a beaucoup d'économies à faire de ce côté-là? Je vous attends au 3210, à tout de suite.
RTL Midi.